Merci d'écouter RFI, 8h à Paris, 10h à Mamoudzou et Damas.
Andréane Mélard.
Et à la une de votre journal, Gaëtan Plenel, la crainte des loyalistes dans l'Ouest syrien.
Crainte de représailles après la chute du régime de Bachar al-Assad, régime soutenu par les Russes qui commencent à se retirer, on y consacre notre dossier du jour. Dans ce journal également, Mayotte qui compte les morts, des centaines, peut-être même des milliers selon les autorités, après le passage du cyclone Chido. Le rendez-vous manqué à Luanda, les présidents de la RDC et du Rwanda ne se sont finalement pas rencontrés comme prévu hier, toujours pas d'accord donc pour un cessez-le-feu dans l'Est congolais. On parlera aussi de la Corée du Sud où la Cour constitutionnelle commence à étudier la validité de la destitution du président votée par les députés, tandis que les députés allemands, eux, vont devoir voter aujourd'hui pour ou contre la confiance à un chancelier affaibli.
La Syrie s'invite à nouveau dans les réunions internationales.
Aujourd'hui, c'est au tour des ministres européens des Affaires étrangères d'en discuter à Bruxelles, 8 jours après la chute du régime de Bachar al-Assad. Hier, Abou Mohamed al-Jolani, le chef du groupe Ayad Tahrir al-Sham, qui a mené la coalition rebelle, a rencontré l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie. La Syrie où la vie reprend son cours, les écoles ont rouvert hier un petit peu partout dans le pays. Mais dans la région côtière, réputée pour être pro-régime, c'est le contraire, les villes se vident. De nombreux loyalistes sont partis ces derniers jours craignant des représailles. D'autres restent, mais sont tout aussi inquiets. Reportage dans le village de la famille Assad à Kardaa, de notre envoyé spécial Manon Chaplin.
Assis le long d'une route défoncée, un groupe d'amis se rejoue en boucle la scène du 8 décembre. Des hommes par dizaines sont venus ici à Kardaa, village d'origine de la famille Assad, dans le but de pourchasser des loyalistes. Pourtant, nous ne sommes pas ici tous des pro-régimes, regrette Ahmed.
Dès que le régime est tombé, ça a été le chaos ici. Il y a beaucoup de gens qui ont la haine contre notre village. Une haine ancienne, mais la plupart des habitants ici n'ont rien fait. Ces personnes ont commencé à nous voler, on ne savait pas s'ils étaient de HTS ou non.
Tour à tour, il raconte, beaucoup dans ce village ont eu accès à des postes privilégiés au sein des administrations du régime. Ici, un employé du ministère des Finances, un ancien militaire, un gardien privé de la famille Assad à Damas. Soubi l'assure, il ne les a pourtant jamais soutenus.
Je n'ai jamais tué personne, jamais utilisé d'armes contre personne en Syrie. Je reste confiant, il ne m'arrivera rien. Seul Allah me fait peur.
À Kardaa, les voitures des pro-régimes ont été enfoncées, les maisons pillées. Il ne reste rien, ni les portes de placard, ni les lavabos, ni même les branches dans les arbres des jardins. Hassan est venu couper celle du parc réservé à la famille Assad.
Je coupe ce bois pour faire du feu à mes enfants car je n'ai rien pour les chauffer. Il n'y a pas de combustible ni quoi que ce soit d'autre à Kardaa. La vie est très dure ici. Et regardez-moi ce parc.
Selon l'ONU, depuis la chute du régime, près de 155 000 personnes ont été contraintes de fuir une deuxième fois. Manon Chaplin à Kardaa, RFI.
Autre soutien de Bachar al-Assad, les Russes, eux aussi, se retirent.
À Moscou a annoncé hier avoir évacué une partie de son personnel diplomatique depuis sa base aérienne de Khmeimim, près de Latakié. Les Russes ont aussi une base navale à Tartous, dans l'ouest du pays où vous avez pu aller. Muriel Paradon, bonjour.
Bonjour.
Pour le dossier du jour sur RFI, Muriel, avec Boris Vichit, vous vous êtes donc rendu à Tartous. Est-ce qu'on voit encore là-bas une présence russe ?
Alors, lorsqu'on arrive à Tartous, ce qui frappe, c'est la modernité et l'opulence de cette ville balnéaire qui contraste avec d'autres régions de Syrie totalement dévastées. Et il y a ce port où il y avait des navires militaires russes il y a encore quelques jours. Hier, lorsque nous y sommes allés, ils avaient totalement disparu. Selon les habitants que nous avons interrogés, ils sont partis le jour de la chute de Bachar el-Assad, se retirant probablement au large. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la base navale russe est toujours occupée par des soldats. Nous avons pu nous en approcher et nous avons vu deux hommes en armes garder l'entrée et un drapeau russe flotter. Par ailleurs, sur la route de Tartous, à une demi-heure environ, nous avons croisé un convoi de plusieurs dizaines de véhicules militaires arborant également des drapeaux russes. Certains transportaient des canons d'artillerie. Il y avait aussi plusieurs bus. Les Russes semblent rapatrier leur matériel et se replier, mais ils ne sont pas encore tous partis de Syrie pour l'instant.
Est-ce qu'on sait combien de Russes étaient ou sont encore présents à Tartous ?
C'est très difficile à savoir parce que les autorités russes communiquent très peu sur le sujet. Moscou a annoncé que des exercices navals avaient eu lieu dans l'est de la Méditerranée début décembre, qu'un millier de militaires et 10 navires y avaient participé, ce qui peut donner une indication. En tout cas, leur présence à Tartous a toujours été très discrète, leur relation avec la population locale plutôt distante, comme l'explique Ali, un habitant de la ville.
Ils ne parlaient pas avec nous et on ne parlait pas avec eux. Ils ne vivaient pas en ville. Ils venaient juste à Tartous pour acheter ce dont ils avaient besoin, pour faire du shopping, pour boire de la vodka. Ils payaient ce qu'ils avaient à payer et repartaient dans leur base. Des militaires étrangers sur notre sol, qu'est-ce qu'on pouvait bien avoir à leur dire? Moi, je suis heureux que les Russes soient partis, comme les Iraniens, les Turcs et les Américains. Qu'ils soient tous partis, il ne doit rester que les Syriens.
Et alors Muriel, que va-t-il advenir de la base navale des Russes?
Moscou a rapidement annoncé avoir entamé des discussions avec les rebelles syriens qui ont pris le pouvoir pour garantir la sécurité de ses bases militaires. La Russie a tout intérêt à maintenir sa présence à Tartous. C'est un ancrage stratégique pour garder son influence au Moyen-Orient, dans le bassin méditerranéen et jusqu'en Afrique.
Muriel Paradon, envoyé spécial en Syrie avec Boris Vichit, et cette région de Tartous a été la cible hier de nouvelles frappes israéliennes selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Israël dont le gouvernement a approuvé hier un projet visant à doubler sa population dans la partie du plateau du Golan annexée en 1981.
Bilan toujours très incertain à Mayotte après le passage dévastateur du cyclone Chido.
Une dizaine de morts confirmées pour l'instant, il pourrait y en avoir des centaines, peut-être même des milliers, a dit hier le préfet de ce département français d'outre-mer, le plus pauvre du pays. Les vents ont soufflé à plus de 220 km/h, laissant derrière eux des paysages apocalyptiques. Le président français Emmanuel Macron présidera une réunion ce soir au centre interministériel de crise du ministère de l'Intérieur. Une course contre la montre s'est engagée à Mayotte pour fournir de l'aide et pour établir là-bas l'approvisionnement en eau, en nourriture et en électricité aussi. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour Gaëtan.
Sur l'archipel, on parle d'urgence au pluriel, elles sont nombreuses.
Mayotte manque de tout et il faut agir vite. Et donc l'une des premières priorités, c'est la réouverture de l'aéroport qui a été gravement touché par le cyclone. Pour l'instant, il n'y a que des avions militaires qui peuvent atterrir pour acheminer du matériel de secours et des personnels médicaux. La tour de contrôle est hors service, ce qui interdit jusqu'à nouvel ordre les vols commerciaux. Des navires de la Marine nationale vont également assurer des rotations avec à leur bord du matériel militaire, des vivres et du matériel EDF. Le terminal portuaire de Mayotte, heureusement, n'a pas été trop affecté par le cyclone. L'autre urgence, même si tout est lié, c'est l'accès à l'eau. Sans eau ni électricité, les rescapés survivent comme ils le peuvent, grâce à leur provisions grâce à ce qui a pu être épargné. Il faut aussi le plus vite possible dégager les voies d'accès pour les secours. De nombreuses routes sont impraticables, ce qui rend la tâche extrêmement difficile aux sauveteurs pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Au milieu des tôles, des poteaux électriques à terre, des arbres déracinés et couchés, des décombres des bidonvilles. Avec encore une mauvaise nouvelle ce matin, Gaëtan, la pluie est de retour sur place, ce qui ne va pas faciliter la tâche des sauveteurs.
Et Bruno Retailleau et François-Noël Buffet, les ministres démissionnaires de l'Intérieur et des Outre-mer sont attendus sur place en fin de matinée.
Ministre démissionnaire, car un nouveau gouvernement doit voir le jour en France.
Avec à sa tête François Bayrou, nommé la semaine dernière. Il a commencé ce week-end des consultations pour former le prochain exécutif. Ça continue jusqu'à demain, puisqu'il reçoit les chefs des groupes parlementaires. Premier rendez-vous dans moins d'une heure maintenant, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella pour le Rassemblement National. Suivront Ensemble pour la République, le groupe du parti présidentiel, mais aussi le Parti Socialiste et les Républicains. Valérie Gasse, objectif pour le Premier ministre, éviter la censure.
François Bayrou veut faire à sa manière, et sa manière, c'est de recevoir tous les groupes parlementaires, individuellement et par ordre d'importance, du plus grand au plus petit, entre lundi et mardi. C'est la raison pour laquelle l'ERN a les honneurs du premier rendez-vous de la série et de la semaine. À Matignon, on explique que cette méthode est factuelle, qu'il s'agit de prendre en compte les rapports de force issus du vote du 7 juillet et qu'elle correspond aussi à l'idée que François Bayrou défend depuis toujours, respect des parlementaires et de la représentation. D'ailleurs, le chef du gouvernement a décroché son téléphone pour inviter lui-même tous les chefs de groupe et leur proposer de choisir leur délégation. François Bayrou s'émancipe donc au moins dans un premier temps de la méthode qu'Emmanuel Macron lui a demandé d'appliquer, réunir tous les partis ensemble sans le RN et LFI. À l'Élysée, on fait mine de ne pas voir le problème, mais un proche du président constate qu'en effet, François Bayrou veut montrer son indépendance. Reste au nouveau Premier ministre à prouver que cette méthode peut lui permettre de former un gouvernement capable de résister à la censure.
Valérie Gasse.
Prolongation et délai de rétractation hier au sommet de la CDAO à Abuja, au Nigeria.
La prolongation des mandats des présidents sénégalais et togolais en tant que médiateurs pour tenter de dissuader le Burkina Faso, le Niger et le Mali de quitter l'organisation ouest-africaine. et délai de rétractation de 6 mois annoncé pour ces 3 pays jusqu'au 29 juillet, donc, alors que leur décision doit officiellement entrer en vigueur fin janvier. Décision qu'ils qualifient d'irréversible.
Rendez-vous manqué à Luanda.
À la rencontre au sommet entre les présidents rwandais et congolais sous l'égide de leur homologue angolais a finalement été annulée à la dernière minute, douchant les espoirs d'un accord de paix dans l'est de la RDC. Le président rwandais Paul Kagame n'est pas venu, lui qui insiste pour qu'un dialogue direct entre la RDC et le M23 figure dans l'accord, ce que refuse Kinshasa. Sommet annulé donc, le ministre angolais des Affaires étrangères, Tété Antonio, s'en est expliqué.
L'accord a été négocié à 99% et des accords ont été conclus sur 2 des 3 questions clés. Le premier point clé était le désengagement des forces, le deuxième était la neutralisation des FDLR et la troisième question clé est celle du groupe M23. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous maîtrisent cette question du M23 qui a fait l'objet de désaccords entre les parties et je parle de la RDC et du Rwanda. C'était donc l'objet des dernières négociations et le seul paragraphe donc qui était dans l'accord et sur lequel les ministres ont négocié en réunion jusqu'à très tard hier sans être parvenus à un accord.
Un propos recueilli par notre correspondant en Angola, Francisco Polo.
En Corée du Sud, le chef du parti au pouvoir démissionne.
Il y présentait ses excuse à ceux qui ont souffert de la loi martiale imposée pendant quelques heures par le chef de l'État Yoon Suk-yeol dans la nuit du 3 au 4 décembre. Il avait finalement dû faire marche arrière face à un vote des députés qui ont également voté pour la destitution du président. La balle est maintenant dans le camp de la Cour constitutionnelle qui a 6 mois pour valider cette procédure. Et ce sera le cas, pas de suspense, nous dit Christophe Godin, maître de conférence en sciences politiques à l'université Kukmin à Séoul.
Tous les présidents de son parti, et j'y insiste, tous les présidents de ce parti de droite populiste, après leur mandat, ils ont fini en prison. Ils sont 5, tous ont fini en prison. Ou bien pour des histoires de corruption, ou bien pour des histoires de complot au sommet de l'État. Donc, ça n'a absolument rien d'inenvisageable de le voir condamné à de la prison. C'est même ce qui se profile de plus probable, puisqu'il est déjà interdit de quitter le pays. Les bureaux de la présidence, les bureaux du ministère de la Défense ont été fouillés par la justice. Le ministre de la Défense, qui était son homme de main pour cette tentative d'imposer la loi martiale, a tenté de se suicider il y a quelques jours. Donc tout ça est non seulement possible, mais probable. En revanche, pour ce qui est de la peine de mort, en effet, il est poursuivi pour rébellion. Et la loi coréenne prévoit la peine de mort en théorie pour les crimes de rébellion. Mais en fait, la peine de mort n'est plus appliquée depuis 1997 et elle ne le sera pas. En même temps, autant tous ces présidents de droite populiste ont fini en prison, autant ils en sont sortis assez vite.
Christophe Godin, auteur du livre Le Grand Miroir de Corée aux éditions La Route de la Soie, il répondait à Heike Schmidt et on apprend ce matin que le président déchu Yoon Suk-yeol a à nouveau rejeté aujourd'hui les convocations de la justice, ce qui pourrait ouvrir la voie à un mandat d'arrêt. Au Bangladesh, des élections législatives fin 2025 ou début 2026. C'est le premier ministre par intérim, Mohamed Yunus, qui l'annonce, lui qui a pris la tête du gouvernement après le départ de Sheikh Hasina, emporté par un mouvement de protestation il y a maintenant 4 mois.
En Allemagne, il y a une date plus précise pour des législatives anticipées, le 23 février prochain.
Mais ce n'est pas totalement acté, puisqu'il faut encore que le Parlement soit dissous. Et pour ça, le chancelier allemand doit perdre le vote de confiance des députés. Ce sera tout à l'heure. Olaf Scholz a plutôt intérêt à le perdre, ce vote d'ailleurs, pour tenter de repartir sur de nouvelles bases après l'implosion de sa coalition gouvernementale début novembre. Les libéraux en sont partis et il dirige depuis un gouvernement minoritaire. Correspondance à Berlin de Pascal Thibault.
Sans majorité, Olaf Scholz ne peut plus espérer faire adopter des textes au Parlement. Pour mettre fin à cette situation, la constitution allemande ne prévoit qu'une méthode, un vote de confiance perdu qui permet au chancelier de demander au président de la République de dissoudre le Bundestag. C'est la même méthode qu'avait utilisée un autre chancelier social-démocrate, Gerhard Schröder, en 2005. Un peu plus de 2 mois du scrutin, Olaf Scholz part avec un fort handicap. Le chancelier est impopulaire et son parti, le SPD, a un retard d'environ 15 points dans les sondages par rapport aux chrétiens-démocrates. Leur président Friedrich Merz est le favori pour devenir le prochain chancelier. Mais la politologue Julia Reuschenbach estime qu'il est trop tôt pour enterrer le tenant du titre.
Je n'exclus pas qu'Olaf Scholz puisse encore gagner cette élection. Il a toujours été sous-estimé. On l'a vu lors des élections de 2021. À 3 mois du scrutin, son parti obtenait 14%. 10% dans les sondages. Tout le monde disait que le SPD était fini. Et à l'arrivée, il a été élu chancelier.
Les Verts, encore alliés d'Olaf Scholz, doivent s'abstenir cet après-midi. Seuls les sociodémocrates devraient donc voter la confiance au chancelier qui va la perdre. Le suspense est mince. Les partis sont déjà en plein préparatif pour les élections du 23 février. Sociaux et chrétiens-démocrates doivent présenter leurs programmes respectifs demain. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et à Berlin comme à Paris, il est 8h15.
Merci Gaëtan Plenem. La revue de presse internationale, Frédéric Couteau, à la une, quel avenir pour la Syrie?
8 jours après la chute du régime de Bachar el-Assad, cette question est au centre des commentaires de la presse internationale ce lundi. Une lutte s'achève, une autre commence, s'exclame le Guardian à Londres. La révolution engendre la contre-révolution, les espoirs s'envolent, la déception et la désillusion s'ensuivent. Est-ce là ce que l'avenir réserve à la Syrie? L'euphorie cache une profonde anxiété, les défis auxquels le pays est confronté sont nombreux, complexe et redoutable. Et le quotidien britannique de s'interroger de que doit faire la communauté internationale. D'abord, tendre une main amicale et prudente aux nouveaux dirigeants de Damas et dire à Israël et à la Turquie de cesser leur comportement déstabilisateur et prédateur. Mais l'Occident ne doit pas tenter de dicter les événements. À ce moment crucial de risque maximal et de méfiance persistante, l'aide internationale doit être dirigée et coordonnée par les Nations Unies, affirme encore le Guardian. Cette opportunité d'un véritable changement ne doit pas être gâchée. Après des années d'échecs, le monde a une dette envers la Syrie. Il est temps de commencer à la rembourser.
Révolu le monstrueux passé, ce sont les incertitudes sur la forme future de la Syrie qui, maintenant, en inquiète plus d'un, relève l'Orient le jour à Beyrouth.
Les responsables du G7 ont réaffirmé avec force leur soutien à une transition en douceur, menant à un gouvernement inclusif et non sectaire, respectueux des droits des femmes et aussi des minorités religieuses et ethniques syriennes. C'est ce même message, poursuit le quotidien libanais, que le secrétaire d'État américain Antony Blinken est allé porter sur place au président turc Erdogan, notoire parrain des tombeurs du régime Assad. Et c'est encore sur cette brûlante question qu'a planché ce week-end à Amman une conférence de haut niveau regroupant Américains, Européens, Arabes et Turcs. Ce branle-bas diplomatique s'explique, pointe encore l'Orient le jour par la hantise générale d'un chaos qui pourrait s'installer en Syrie où pullulent les groupes armés les plus disparates, chaos dont les extrémistes de l'État islamique seraient les premiers bénéficiaires.
Pendant ce temps, la chasse aux milliards manquants de la dynastie Assad commence, s'exclame le Wall Street Journal.
En effet, la famille Assad avait mis en place un vaste réseau d'investissements et d'intérêts commerciaux au cours des décennies qui ont suivi la prise de pouvoir par le patriarche Hafez al-Assad dans les années 70. Il y a des biens immobiliers de premier ordre en Russie, des hôtels de charme à Vienne en Autriche, un jet privé stationné à Dubaï, de l'immobilier aussi en France pour un montant estimé à 90 millions d'euros, des biens d'ores et déjà gelés par Paris depuis 2019. Au total, la fortune de la famille Assad pourrait avoisiner les 12 milliards de dollars, estime le Wall Street Journal. En tout cas, pour les nouvelles autorités syriennes, pointe le quotidien américain, cette chasse pour récupérer tous ces milliards sera probablement longue, tout comme l'ont été celles des fortunes cachées de Saddam Hussein et de Muammar Kadhafi.
À la une également, l'île française de Mayotte dans l'océan Indien, ravagée par le cyclone Chido.
Une véritable apocalypse, s'exclame le Monde à Paris. Combien de victimes ensevelies dans les amas de tôles, d'équipements électroménagers et de débris de mobilier? Combien de disparus dans les bidonvilles entièrement dévastées par les rafales à plus de 200 km/h? Le département n'avait pas connu de cyclone d'une telle violence depuis au moins 90 ans.
Mayotte, une vision de fin du monde, renchérit Libération.
Cet événement exceptionnel, selon Météo France, est un phénomène naturel, certes, mais dans ce cas précis, l'homme a une énorme responsabilité, relève Libération, à deux niveaux. En contribuant au dérèglement climatique qui s'est traduit par des températures de surface des eaux de l'océan proches de 30 degrés, ce qui, avec des eaux chaudes très profondes, a créé un gros réservoir d'énergie disponible pour les cyclones. Et en laissant sombrer ce département dans la misère. Alors que toutes les sonnettes d'alarme étaient tirées depuis des mois et même des années, l'État français, conclut le journal, a failli dans la gestion de ce département et la population locale en paie aujourd'hui le prix. La moindre des choses, désormais, conclut Libération, est de lui porter secours et réconfort, vite et par tous les moyens.
Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale. En Syrie, la ville de Kobané est la place forte des combattants des forces démocratiques syriennes, les FDS. Dominés par les Kurdes, vivent dans la crainte depuis le début de l'offensive des factions armées soutenues par la Turquie. Un cessez-le-feu, négocié sous l'égide des États-Unis, a gelé le front depuis mercredi, mais il a pris fin hier soir. Ainsi, les habitants de Kobané craignent une reprise des combats alors qu'ils subissent encore les conséquences de la dernière offensive des forces de l'ANS, le rassemblement de groupes rebelles soutenu par la Turquie. Reportage sur place à Kobané, Marie-Charlotte Roupie.
Le cessez-le-feu temporaire prend fin. Kobané n'a eu que quelques jours de répit. L'angoisse d'une nouvelle offensive des forces pro-turques, qui cette fois encerclerait la ville, monte, alors que les funérailles des victimes des 10 premiers jours de guerre s'enchaînent encore. De doigts levés vers le ciel, des milliers de personnes saluent le passage des 6 cercueils au cimetière des martyrs de Kobané. Ces combattants sont morts en tentant de reprendre le contrôle du barrage de Tichrin ou du pont de Karakozak. Les familles sont effondrées. Mazloum, un habitant de Kobané, est venu les soutenir.
Tous les jours, on vient ici pour enterrer des soldats. On pleure et quand on voit leur famille, ça nous brise le cœur. Maintenant, mort après mort, nous sommes arrivés à un point où il n'y a plus de place pour eux.
Sur l'une des sépultures creusées ce jour-là, le portrait d'une jeune fille en uniforme. L'un de ses proches, très ému, s'inquiète.
J'ai 2 enfants, une fille et un garçon dans les forces démocratiques syriennes. L'un est à Raqqa, l'autre je ne sais pas. Quand je vois le grand nombre de martyrs, je me dis que je devrais aller sur le front et profiter de mes enfants.
Avec la fin du cessez-le-feu, la population se prépare à la reprise des combats. Mais Kobané est en mauvaise posture. L'offensive précédente a causé des dégâts aux infrastructures qui alimentent la ville en électricité. La perte de la région de Manbij au profit des factions de l'armée nationale syrienne signifie la perte de la principale voie d'approvisionnement de Kobané. À l'hôpital civil, une nouvelle offensive serait un désastre, selon Ogur Bali, administrateur de l'établissement.
Si on devait avoir des cas urgents, s'il devait y avoir beaucoup de blessés, nous faisons déjà face à des ruptures de stock de médicaments et d'équipements. Pour l'instant, nous avons un générateur, un autre de secours. On peut encore travailler 24 heures sur 24, mais on verra, on prendra des mesures. Et si ça continue comme ça, on peut tenir un mois tout au plus.
Autre inquiétude pour les habitants, l'acheminement de vivres et de carburant dépend intégralement à présent de la route menant à la ville de Raqqa au sud. Factions pro-turques et forces kurdes s'y font face. Si l'axe venait à être coupé, Kobané serait alors complètement assiégée. Marie-Charlotte Roupie, Raqqa, RFI.
Et à Kobané, il est 10h22. Cette affaire aux États-Unis à présent. Depuis un mois, des drones ont été observés dans le ciel de la côte est américaine, notamment dans le New Jersey. Tout a commencé à proximité de bâtiments militaires. Un membre du personnel a affirmé avoir aperçu un drone. Puis des centaines de personnes ont dit en avoir vu à leur tour dans tout l'État et sur les réseaux sociaux. Photos et vidéos se sont multipliées. Vendredi, un aéroport au nord de la ville de New York a même dû fermer ses pistes momentanément par mesure de sécurité. Bonjour Karine Hotel.
Bonjour.
Alors le souci, c'est que depuis un mois, les autorités n'arrivent pas à localiser ou à identifier ces drones. Alors forcément, les rumeurs vont bon train.
Oui, il est très difficile pour les Américains de concevoir que l'armée puisse ne pas être au courant. Ça les angoisse forcément et ça rend les élus locaux nerveux. Le golfe de Donald Trump dans le New Jersey est ainsi désormais zone interdite de survol et parfois ça fait même échafauder aux élus des hypothèses sans preuve, comme celle du représentant républicain du New Jersey, Jeff Van Drew.
L'Iran a lancé un vaisseau-mère qui contenait ces drones il y a un mois probablement.
Donald Trump lui-même en a profité pour taper sur l'administration Biden et a lancé que forcément elle cachait quelque chose. Bref, vous l'aurez compris, la désinformation va bon train.
Et pour ne rien arranger, l'administration Biden justement affirme que ces drones ne représentent pas de danger, mais pour autant, elle est incapable d'en dire plus. John Kirby est le porte-parole de la sécurité nationale.
Nous n'avons aucune preuve pour le moment que les observations de drones signalées constituent une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité publique ou ont un lien avec l'étranger. Le département de la sécurité intérieure et le FBI enquêtent sur ces observations et travaillent en étroite collaboration avec l'État et les forces de l'ordre local pour fournir des ressources en utilisant de nombreuses méthodes pour mieux comprendre leur origine grâce à des technologies de détection électronique très sophistiquées fournies par les autorités fédérales.
Encore ce dimanche, le ministre de la Sécurité intérieure est resté très prudent. Il ne réfute pas que des drones ont pu être vus, mais ils n'ont pas été repérés sur les radars. Les informations sont diverses, mais elles décrivent pourtant des engins de la taille d'une voiture qui volent pendant plus d'une heure et sont capables de passer en mode furtif dans le noir total. Donc, on est bien loin de drones qu'on peut acheter dans le commerce. Le FBI a reçu plus de 5000 appels de personnes qui en auraient vu, mais seulement une centaine semble crédible.
Les élus locaux dénoncent un manque de transparence. Carrie, est-ce qu'on sait comment se déroule l'enquête ?
Eh bien, les autorités fédérales analysent les images partagées sur les réseaux sociaux ou qu'elles ont reçues, et puis elles les ont croisées aussi avec les plans de vol des avions des environs. Et ainsi, John Kirby explique que pour l'instant, il est impossible de confirmer que ce sont vraiment des drones.
Au contraire, après examen des images disponibles, il apparaît que bon nombre des observations sont en fait des avions pilotés et exploités légalement. Les gardes-côtes américains ont patrouillé le long de l'état du New Jersey et ils ont confirmé qu'il n'existe aucune preuve d'une quelconque implication de navires côtiers basés à l'étranger.
Des avions certainement, pas de drones iraniens, et pourtant le public reste toujours circonspect. Ceci dit, ce que révèle surtout toute cette histoire, c'est un décalage de partage de compétences. Les autorités locales n'ont pas les moyens technologiques ni les autorisations pour enquêter, et les autorités fédérales manquent de réactivité pour des événements si locaux et ponctuels. Donc les élus proposent de faire passer une loi dans quelques jours pour remédier à tout cela. En attendant, la gouverneure de New York devrait recevoir un système de détection de drones ces jours-ci de la part de Washington.
Carrie Noton. La question d'environnement sur RFI. On s'intéresse ce matin aux droits des peuples autochtones qui sont directement liés, on va le voir, à la protection de la nature. Jeanne Richard, vous nous parlez ce matin d'une lutte de près de 10 ans qui a marqué le Canada, celle du peuple autochtone Wet'suwet'en contre la construction du gazoduc Coastal GasLink sur leur territoire en Colombie-Britannique, dans l'extrême ouest du pays. Jeanne, une semaine d'audience judiciaire vient justement de se terminer à ce sujet.
Oui, pendant 3 ans, la GRC, la Gendarmerie Royale du Canada, a effectué plusieurs raids sur les barrages mis en place par les Wet'suwet'en pour entraver la construction du pipeline. Ce qui a choqué l'opinion canadienne, c'est l'ampleur de la répression avec des chiens, des hélicoptères et des fusils d'assaut face à de simples barricades de bois. Suite à un de ces raids, certains membres de la Première Nation Wet'suwet'en ont même été reconnus coupables d'outrage criminel pour avoir voulu empêcher les travaux. La justice leur avait en effet interdit d'approcher le pipeline. Mais cette condamnation est suspendue pour l'instant car les Wet'suwet'en estiment que la GRC fait un usage excessif de la force, qu'elle s'acharne sur eux. Si la justice le connaît, alors les autochtones pourraient échapper à la prison, verdict courant 2025.
Ils échapperaient à la prison pour s'être opposés à ce pipeline qui traverse donc les terres dont ils sont propriétaires.
Oui, à l'origine, un gazoduc de 670 km de long à travers les montagnes rocheuses canadiennes pour transporter du gaz de schiste, particulièrement polluant, jusqu'à la côte où il doit être liquéfié pour être vendu sur les marchés asiatiques. Un projet voulu par les autorités canadiennes et les industriels. Le problème, c'est que les chefs traditionnels des Wet'suwet'en s'y opposent, mais n'ont jamais été consultés, alors que ces terres leur appartiennent, elles n'ont jamais été cédées à l'État canadien. Freda Husson est l'une des figures de la lutte des Wet'suwet'en.
Toute la végétation et la vie sauvage vont être anéanties sur le tracé. Toutes les rivières, les cours d'eau qui abritent les saumons. Nous sommes un peuple de pêcheurs, nous dépendons de ces saumons. Et aussi des baies, des remèdes, des arbres qui purifient l'air. Nos voisins en Alberta ont déjà vécu cela. Les peuples autochtones ont perdu leur tradition. Ils ne peuvent plus pêcher ni chasser à cause de la pollution. Et il y a de nombreux morts à cause de cancers rares. Leur histoire nous a alertés sur ce que sont vraiment ces industries extractives. Et on ne veut pas perdre notre mode de vie. C'est ce qui nous définit. Nous sommes la terre est en nous.
On le voit, Jeanne, la relation des peuples autochtones à la nature est bien plus forte que dans nos sociétés.
Oui, c'est justement cela qui est précieux. La science montre que les zones gérées par les peuples autochtones sont en meilleure santé que les autres espaces naturels. Le programme des Nations Unies pour l'environnement reconnaît d'ailleurs qu'il sera impossible de maintenir le réchauffement climatique à un niveau vivable sans ces peuples et leur savoir. Pour préserver notre planète, il est donc essentiel de reconnaître leurs droits à gérer leur propre territoire.
Jeanne Richard pour la question d'environnement. Merci beaucoup.
Ce lundi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Lorsqu'il est arrivé au pouvoir il y a tout juste un an, le nouveau Premier ministre polonais Donald Tusk a promis une libéralisation de la société. Cela commence par l'éducation. Une nouvelle réforme vient diminuer la place de la religion à l'école.
Accent d'Europe. Du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.